Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
De Rome, on connaît son architecture, ses monuments antiques qui font encore aujourd'hui la joie des touristes et des Italiens. On connaît bien évidemment l'apport du droit, les grandes innovations juridiques. On connaît cet empire qui a transformé la Méditerranée en une Mare Nostrum et évidemment le fer de lance de cet empire, le fer de lance de Rome, l'armée romaine, une armée qui a évolué au cours des siècles, qui a eu un rôle social, qui a été évidemment l'élément de l'expansion de Rome. Or cette armée romaine, on a parfois un petit peu tendance à la passer sous silence ou à ne l'aborder que sous sa dimension sociale qu'elle a eue, et d'en oublier aussi les dimensions strictement militaires. Alors au cours de cette émission, nous allons nous replonger dans l'histoire militaire romaine, nous allons voir comment fonctionne cette armée, comment elle est structurée, ce qu'elle nous apprend également, ce qu'elle peut nous apporter aussi pour la guerre d'aujourd'hui. Et pour parler de cette armée romaine, première armée moderne, le titre d'un ouvrage paru aux éditions Pierre de Taillac, je reçois l'auteur de cet ouvrage, le général Nicolas Richoux. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous avez été formé à l'école militaire de Saint-Cyr, longue carrière dans l'armée de terre. Vous avez connu différents théâtres d'opérations. Et vous avez également consacré une thèse de doctorat en histoire à l'armée romaine, dont une version abrégée, synthétisée, est sortie aux éditions Pierre de Taillac. Alors, c'est une maison d'édition avec laquelle nous travaillons beaucoup et de très bons ouvrages sortent régulièrement chez Pierre de Taillac. Je ne peux que renvoyer nos éditeurs à cette maison d'édition. Et comme chaque semaine, toutes les références des ouvrages cités sont sur le site internet de Conflit. Alors, commençons peut-être par des choses très, très basiques, mais évidemment, quand on parle de l'armée romaine, on est toujours un petit peu pollué par Astérix, avec les joies et les déboires de ce qu'une bande dessinée peut apporter. On connaît bien évidemment le légionnaire, on a en image la tortue, mais comment est structurée l'armée romaine, on veut dire à l'époque de Jules César, à l'époque de la début de l'Empire, sous Octave, cette armée de terre? D'abord, la légion, qu'est-ce que c'est exactement? Combien il y a d'hommes dans une légion? Et quels sont les principaux armements de cette armée?
Alors, la légion, d'abord, c'est un instrument qui est assez rare. Il y a, à l'époque d'Auguste, il doit y avoir 220, 230 000 hommes sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. C'est très peu. C'est quoi? C'est 25, 27 légions à l'époque d'Auguste. Donc, on voit quand même que c'est un instrument que le pouvoir romain est forcé d'économiser, car il coûte très cher. Et puis finalement, pour l'étendue de l'Empire, c'est très très peu. Alors cette légion, ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle a des caractéristiques éminemment modernes. Et ces caractéristiques éminemment modernes, c'est que la légion, puisqu'on commence par là, elle fait à peu près 6 000 hommes. Et 6 000 hommes, c'est à peu près la taille d'une brigade moderne, c'est-à-dire une brigade telle que je l'ai commandée aujourd'hui. Alors les brigades françaises sont un peu plus étoffées, elles montent maintenant avec les renforcements jusqu'à 8 000, mais 6 000, c'est à peu près la taille d'une brigade dans la plupart des pays, je dirais, modernes et occidentaux. Alors donc c'est ça qui m'a commencé, ce qui m'a fasciné. Et puis quand on descend dans les structures, on s'aperçoit qu'on retrouve à peu près, je dirais, les formats que l'on connaît encore aujourd'hui. Alors, on connaît bien la centurie, hein, le centurion, ça c'est la figure tutélaire d'Astérix. Le centurion, il commande à peu près 80 hommes. Moi, quand je commandais un escadron de cavalerie, c'était à peu près 100 hommes. Vous voyez, donc, une manipule, c'est deux centuries, c'est 160 hommes. Section d'infanterie, aujourd'hui, c'est 140 hommes. Donc on retrouve à peu près ces chiffres qui sont pérennes. Et qui correspondent à quoi, finalement? C'était sans doute ce qu'un homme à la voix pouvait commander simplement sur le champ de bataille, en étant vu de ces hommes sur le même compartiment de terrain. Il avait son emblème, donc on le voyait, on pouvait le suivre, et quand on avait peur, on se tournait vers le chef. Et ensuite, quand vous avez... vous avez la cohorte, hein, la cohorte, 480 hommes, 6 x 8, 48, donc 6 centuries, 480 hommes, c'est la taille d'un bataillon tel qu'on les envoie en opération aujourd'hui. Alors, ce n'est pas la taille d'un régiment. Hein. Les régiments, c'est une notion moderne, c'est une notion très française, un régiment. Hein, mais il y a encore des bataillons dans les armées étrangères, comme dans l'armée allemande. Et dans l'armée allemande, c'est 500-600 hommes, vous voyez. Donc, le rapport existe toujours, c'est toujours le même. Et lorsque l'on part en opération, on taille des formations ad hoc, qui sont, par exemple, au Mali, en Afghanistan. Moi, je suis en Afghanistan, je ne suis pas parti avec mon régiment in extenso, je suis parti avec diverses formations, dont la taille faisait à peu près 400-500 hommes, la taille d'un bataillon, la taille d'une cohorte romaine. Donc, on retrouve tous ces chiffres qui restent pérennes, c'est-à-dire la centurie, qui est finalement la compagnie, ou l'escadron, la cohorte, qui est le bataillon, et la légion, eh bien, qui est la brigade moderne.
Donc l'armée française, les armées européennes sont des héritières directes, moi, dans leur organisation humaine de l'armée romaine.
Mais je crois qu'il y a quelque chose d'empirique, parce qu'il y a quand même eu des ruptures. On ne peut pas dire qu'au Moyen-Âge, à l'époque des chevaliers, on a conservé les structures antiques. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à partir de la Renaissance, on a commencé à regarder à nouveau les anciens. On a reformé des phalanges, par exemple, c'est très intéressant, au XVIe siècle, enfin au XVe siècle, même on connaît la phalange suisse, mais qui est héritière, qui se calque sur la phalange macédonienne, avec des piques très très longues. C'est celle qu'a battue Charles Téméraire, notamment avant qu'il se fasse tuer sous les murs de Nancy en 1477. Et puis au XVIe siècle, il y a les fameux lansquenets, donc ce sont des piquets allemands, et qui reprennent un petit peu les formats antiques. Et donc au XVIe siècle, on retrouve des structures, on relie les anciens, on retrouve des structures antiques, et c'est surtout l'époque où naissent les régiments permanents. Les régiments permanents, chez nous, les compagnies royales, les compagnies d'ordonnance, renaissent à peu près sous Charles VII, c'est-à-dire le gentil dauphin de la Pucelle, qui, après Orléans, réorganise l'armée française. L'ost royal traditionnel à cheval avait fait preuve de toute son incapacité à mener la guerre aux batailles d'Azincourt, Poitiers, etc. Donc, à ce moment-là, on crée plutôt des unités modernes qui sont effectivement, parfois, ont des similitudes avec les armées antiques.
Vous dites dans votre ouvrage qu'une des nouveautés de la Légion, c'est la standardisation des armes, de l'armement. Ce qui m'a surpris, je pensais que ça existait déjà auparavant, mais...
Non, alors oui, on voit toujours, par exemple, les armées grecques, etc., mais chacun qui sont équipés, par exemple, l'anabase, mais non, en fait, chacun s'équipait avec ce qu'il pouvait et en fonction de sa richesse. Donc ça, c'était vrai chez les Romains. Dans l'armée républicaine, chacun s'équipait selon sa richesse. Le premier rang était équipé, c'était les plus lourds, les citoyens les plus riches, et puis ainsi de suite, il y avait trois rangs, du plus riche au moins riche. Puis les tout jeunes, les vélites, étaient en avant et menaient un espèce de combat, de harcèlement de l'ennemi, etc. À partir de Marius, effectivement, on peut dire que l'armement se standardise, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il est uniforme d'un bout à l'autre de l'Empire, mais on y retrouve les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une armure, alors sous Marius, même sur Jules César, elle a encore plus de cotes de maille que la fameuse armure d'Astérix que l'on connaît bien, qui est plus tardive, le casque, on trouve le glaive, on trouve le fameux bouclier, alors là, qu'on voit très bien chez Astérix, qui est semi-circulaire et qui est assez rond, qui couvre une partie du corps, et puis un ou deux pilums. Vous voyez, donc cet armement est standardisé, simplement, quand on est une armée, une légion en Syrie, on n'est pas équipé comme une armée dans l'île de Bretagne, face aux Calédoniens ou aux Pictes, vous voyez, dans le nord du Royaume-Uni actuel. Et donc, il y a des particularités. Vraisemblablement, dans les pays froids, on met des braies à la gauloise, on porte des chaussettes. Il y a des légions qui ont gardé la cotte de maille tout au long de l'Empire, d'autres qui ont adopté cette armure segmentée, la lorica segmentata, comme on l'appelle, qui est celle typiquement connue sous Astérix et qui a eu un grand succès, notamment à l'époque impériale, jusqu'au IIIe siècle.
Alors, vous expliquez dans votre ouvrage que, jeune capitaine, vous avez découvert la guerre contre les Juifs de Flavius Josèphe,
oui.
Que c'est un ouvrage qui vous a marqué, et on le voit d'ailleurs qu'il parcourt, c'est un peu le fil rouge de l'ensemble de votre livre. Racontez-nous en quoi cet ouvrage de Flavius Josèphe est important, et notamment qu'est-ce qui le distingue de la guerre des Gaules, par exemple, de César, qui est aussi un livre de guerre, où un général raconte la guerre, mais Flavius Josèphe a une petite saveur particulière.
Il a une saveur particulière. Alors, Jules César est très intéressant. On peut pas. Alors, Jules César, il y a la guerre des Gaules, la guerre civile, enfin, etc., la guerre d'Afrique, la guerre d'Espagne. C'est tout à fait riche. Jules César, il fait son panégyrique. Donc, il donne toujours le beau rôle. Donc, même lorsque il se fait battre sur le terrain, on le sent, par exemple, quand il débarque en Bretagne, Jules César, sur l'île de Bretagne, bien entendu, il fait une expédition, il y reste quelques jours, visiblement, ça se passe mal, il remballe, mais il dit, moi, j'ai juste fait, je suis allé voir comment ça se passait, je suis rentré. On sent bien qu'il n'avait pas la logistique, la capacité à durer et que ça se passait assez mal pour lui, dès le débarquement. Donc, donc Jules César, c'est quand même, il est tout à fait précieux, parce qu'il nous donne des renseignements, par exemple, au siège d'Alésie, qui sont confirmés d'ailleurs par l'archéologie. Donc, Jules César est absolument précieux parce que on lit effectivement sa stratégie. J'aimerais d'ailleurs faire une relecture militaire un petit peu de la guerre des Gaules, mais il dresse son propre panégyrique et il l'écrit à destination du Sénat. Donc, comme il est consul, il est obligé d'aller montrer au Sénat qu'il obtient des grandes victoires. Il est aussi il faut jamais oublier que derrière, il y a toujours Pompée, qui est la grande figure militaire de l'époque, et contre lequel il va se dresser, mais qui, au début de la guerre des Gaules, a plus de prestige que lui. Donc tout est fait dans la guerre des Gaules pour le mettre en avant et montrer qu'il est un général exceptionnel. Ce qu'il est, c'est pas très très objectif. Avec Flavius Josèphe, c'est un général juif, qui a été fait prisonnier par Vespasien, le futur empereur, hein, qui était alors général en Judée, lors de la révolte de Judée. Alors, la révolte de Judée, c'est grosso modo 67-73. Les Juifs se révoltent, pour faire simple, et ça se termine à Massada. Prise de Jérusalem 70, Massada 73. Bon. En 67, il est général en Judée, Josèphe, et il organise la résistance. Et notamment, il organise la résistance au siège de Jotapata, et dans lequel il organise une belle résistance aux Romains, mais finit par se faire prendre, parce qu'il y a au moins trois légions en face de lui, donc il n'a aucune chance de tenir. Lui, c'est une ville de 10 000 hommes, bon, il n'a aucune chance de tenir. Mais il devient prisonnier, esclave, mais en même temps ami de l'empereur, et donc, du futur empereur. À l'époque, Vespasien est encore général. Et son fils Titus, qui deviendra empereur également. Donc il vient, et là, il suit... Vespasien, puis Titus dans ses campagnes, il assiste au siège de Jérusalem, et donc il nous en donne une analyse tout à fait militaire, donc tout à fait exceptionnelle. On sait, par exemple, le nom du centurion qui met le pied le premier sur l'esplanade du temple. Il nous explique avec beaucoup de détails qu'avec ses chaussures à clous, il rippe, il tombe en arrière et finit transpercé par l'élan juif. Donc, je veux dire, il y a une foultitude de détails, et également sur le fonctionnement de l'armée en marche, également sur les auxiliaires, sur le fonctionnement de tout l'environnement de l'armée romaine, qu'il n'y a pas chez Jules César. On sait comment fonctionnent les pièces d'artillerie, on sait le nombre exact des troupes, donc ça nous permet d'évaluer les rapports de force. Chez Jules César, on sait qu'il a quelques milliers de cavaliers, par exemple, alors que chez Flavius Josèphe, on a le compte exact des alliés et des troupes auxiliaires qui rejoignent les troupes de Vespasien et Titus pour les aider dans la reconquête de la Judée. Donc tout ça, alors il est très laudateur aussi, parce que Flavius Josèphe, il devient citoyen romain, et il écrit d'abord en araméen, et ensuite il écrit en grec, pour pouvoir être lu dans le monde antique complet, et donc il écrit sans doute de manière aussi un peu laudateur pour son ami l'empereur Vespasien ou son ami Titus. Donc il y a des choses aussi qu'il faut relativiser. Par contre, sa relation militaire est tout à fait crédible et d'une précision inégalée dans les textes antiques.
Vous soulignez la question de la logistique. Comment s'organisent les Romains, justement, pour apporter à manger et à boire, pour soigner les soldats, pour réparer les armes, tous ces éléments essentiels à la guerre?
Oui, alors la Légion emporte tout avec elle. C'est en ça qu'elle fait, qu'elle est très, très moderne. C'est que la Légion, quand on étudie ces camps, qui sont connus par Pseudo-Hygin, hein, qui a fait la castramétation des camps, hein, des munitionibus castrorum, on sait que les camps avaient des hôpitaux de campagne, qu'ils avaient des ateliers de réparation, on était capable d'y fabriquer des pièces d'artillerie, etc. etc. Et ensuite, en matière de logistique, c'était tout à fait évolué également. Alors, ça pouvait être, quand on s'enfonçait profondément, par exemple, sur les bords de l'Euphrate, du côté de chez les Parthes, effectivement, la logistique devenait sans doute un peu vasouillante, et on a des exemples de légions qui crèvent de faim, qui mangent des racines, qui attrapent un certain nombre de maladies, et qui sont obligés de retraiter. Par contre, au siège de Jérusalem, on sait qu'il y avait 65 à 60 000 hommes, 139 jours, et la logistique a suivi. Et la logistique, elle arrivait de Syrie, elle arrivait par le port de Césarée, elle arrivait d'Alexandrie en Égypte, et donc il y avait tous un système parfaitement élaboré pour approvisionner au quotidien, d'ailleurs dans ma thèse, hein, qui est sur la poliorcétique, elle n'est pas tout à fait sur la modernité de l'armée romaine, dans ma thèse j'ai essayé d'évaluer les besoins quotidiens de l'armée romaine au siège de Jérusalem. C'est tout à fait considérable de pouvoir approvisionner une troupe dans la durée, et donc il y avait des officiers, il y avait aussi qui étaient dédiés à ça, il y avait également beaucoup de marchands qui s'aggloméraient aux alentours des camps romains, on appelait ça des canabae, donc c'est des camps de marchands où on trouvait tout, sans doute des prostituées, on pouvait acheter à boire, il devait y avoir des tavernes, et puis tous les marchands locaux apportaient leurs animaux, leur ravitaillement, où c'était réquisitionné. Les Romains fourrageaient beaucoup également, c'est-à-dire que quand ils étaient en territoire ennemi, ils n'avaient aucune pitié, allaient couper le blé, à le rapporter pour leurs hommes, et à piller absolument tout ce qu'ils trouvaient sur place pour le profit de leurs propres troupes.
Alors, vous avez employé le terme de poliorcétique. De quoi s'agit-il? C'est un terme technique. Justement, à quel élément de l'armée ça fait référence?
Alors,
au combat?
La poliorcétique, c'est l'art des sièges, tout simplement.
Voilà. Donc, amener l'ensemble des machines, les
ben,
béliers...
C'est encercler une ville, prendre une ville, tout simplement. Donc, c'est du grec, c'est un mot grec. Et donc, moi, j'avais fait ma thèse sur la poliorcétique au 1er siècle. C'est là que je me suis aperçu, effectivement, de la modernité de l'armée romaine. Moi, je n'étais pas parti pour décrire une armée moderne romaine, mais j'ai trouvé, lorsque j'ai fait ma thèse, cette espèce de modernité. Donc, la poliorcétique, elle est très intéressante parce que c'est sans doute la composante la plus complexe de l'art de la guerre, c'est-à-dire qu'il faut avoir des troupes suffisantes pour encercler une ville, il faut apporter la logistique pour permettre à une unité de tenir pendant le siège, et c'est l'exemple type de ce que on appelle en langage moderne le combat interarmes, c'est-à-dire que quand on est avec une légion romaine, on pense toujours, vous voyez, quand on voit dans les films, ils sont face à face, et puis après ça se termine en combat singulier, un peu désordonné, etc. C'était absolument pas ça. Je veux dire, une légion romaine, elle a de l'artillerie, elle tire de l'artillerie à la façon moderne, 59 pièces dans une légion. Imaginez la force, la puissance. Les effets destructeurs de l'artillerie sont tout à fait décrits, notamment par Flavius Joseph. Ça détruit des remparts, ça fauche les hommes sur les remparts, etc. Et ensuite, dans un combat, il n'y a pas que l'infanterie légionnaire, il y a aussi des archers, qui les archers font à peu près l'effet, si vous voulez, de mitrailleuses modernes. Ça sature le ciel, et puis ensuite, ça s'abat en nuée sur les soldats qui sont dans les rangs. On a des frondeurs, et surtout, on a de la cavalerie, dont la légion romaine n'est pas équipée, et tout cet environnement est fourni par les alliés. C'est ce qu'on appelle le combat interarmes, la capacité de manier toutes ces fonctions opérationnelles pour en faire un outil cohérent, moderne, et c'est ça la vraie modernité de l'armée romaine. La phalange grecque était une phalange où on poussait vers l'avant, un peu à la façon mêlée de rugby, avec les piques, etc. Ça durait 45 minutes. L'armée romaine, elle mène un combat d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie, des compétences du génie absolument considérables. On était capable de fabriquer n'importe quoi, le mur d'Adrien, le camp à la halte le soir, des aqueducs pour approvisionner leur propre garnison. Ils avaient des compétences du génie qu'il a fallu attendre chez nous le XVIIe siècle quasiment pour retrouver.
Vous mentionnez l'artillerie. Quels sont les objets qu'on utilise? C'est on tire des boulets, des pierres
Alors, on tire des boulets, bien sûr, et on tire des flèches. Voilà. Alors on appelle ça... En latin, il y a des tas de mots, il y a ballista, il y a tormentum. Mais alors, le problème, c'est que selon les auteurs, on ne sait jamais si c'est vraiment un outil qui lance des pierres ou bien une machine qui lance des flèches. Donc, mais grosso modo, c'est des pierres et des flèches. Et l'artillerie, grosso modo, avait un très gros lanceur de pierres, de flèches qu'on appelle un scorpion par centurie. Donc c'est énorme, et puis donc 59 centuries, et puis un onagre, c'est-à-dire le lanceur de pierre par cohorte. Donc ça, ça faisait partie de leur armement standard, ce qui leur permettait de saturer le terrain, de faire de la destruction, et de la neutralisation de l'ennemi, et de la destruction des unités adverses avant de monter à l'assaut. Et ça, c'est véritablement très moderne, parce qu'on n'imagine jamais la puissance de l'artillerie antique. Rien n'a changé. Le vecteur a changé aujourd'hui. On tire plus loin, c'est plus puissant, c'est tout ce que vous voulez. Mais la capacité de destructrice de pierres de 80 kg qui pouvait aller à 300 mètres, qu'on n'a jamais réussi d'ailleurs à reconstituer. Il y a une reconstitution à la BBC où, d'un onagre qui lançait une pierre de 80 kg. Au bout de trois tirs, il a tiré à 30 mètres et il s'est disloqué. Vous voyez, on ne sait pas exactement comment ça s'était fait. Donc, il fallait les entretenir, des ateliers. Il fallait pouvoir les construire. C'est-à-dire que les légions se déplaçaient avec des pièces plutôt légères. Quand on avait besoin de grosses pièces pour faire le siège d'une ville comme Jérusalem, on construisait des grosses pièces uniquement pour ça. Donc il fallait des ingénieurs dédiés. Et donc ça, c'est véritablement une des spécificités, une des très grandes modernités de l'armée romaine.
L'historien médiéviste, historien de l'armée, Philippe Contamine, a montré dans ses recherches qu'une grande partie des villes à l'époque médiévale assiégées étaient prises souvent par trahison, des gens qui ouvraient les portes, et puis finalement, il n'y avait pas d'assaut directement. Est-ce que c'est un petit peu la même chose à l'époque romaine? Est-ce que les villes sont prises par l'assaut, ou est-ce qu'on a des cas réguliers de trahison, de quelqu'un qui ouvre la porte et qui laisse rentrer l'armée?
Assez peu de trahison, en fait. La trahison, c'est souvent, on le voit souvent dans les périodes de guerre civile. Alors, il y a eu beaucoup de guerres civiles chez les Romains.
Oui.
Ouais, bon. Alors, les trahisons, genre, en période de guerre civile, la légion qui change de camp, etc., ça on le trouve. En revanche, on ne trouve pas de trahison. Par contre, le général romain, lui, il pratique ce qu'on appelle l'économie des moyens. Et l'économie des moyens, c'est quoi? C'est-à-dire, je cherche à avoir le maximum de résultats au moindre coût. Pourquoi? Parce qu'il a un appareil militaire qui coûte très cher. C'est long de former un légionnaire. Donc, il faut économiser la vie de ses hommes. Donc, il a véritablement le souci de l'économie de la vie de ses hommes. Si il entame un siège, vous voyez, 139 jours avec la logistique associée, c'est énorme. Il y a des risques après aussi de contagion, de maladie, etc., quand on stationne, de choléra, quand on stationne très longtemps. Même. Donc tout ça, ils le savent. Et donc, ils essayent de prendre les villes au moindre prix. Et donc, ce que l'on voit beaucoup, c'est la négociation et l'intimidation. C'est-à-dire qu'une légion qui arrive devant une ville, elle fait des démonstrations de force, et donc, pas mal de cas, les gens sortent et demandent ce qu'on appelle la déditio, c'est-à-dire ils se rendent à Merci, mais quand on se rend à Merci, ils sont sous protection. Et donc ça, c'est un statut juridique. Donc sous protection, on ne peut pas les massacrer, on est obligé de s'en occuper. Donc on se rend à Merci, mais c'est la protection. Si on combat outrance, on est massacré. Voilà, donc ça c'est certain, mais dans ma thèse, j'ai essayé de démontrer que dans à peu près 30% des cas de villes dont on sait qu'elles ont été prises, 30% des cas, elles ont été prises sans combat. C'est à peu près un tiers. Donc l'assaut, le siège en règle, n'est absolument pas la règle générale. Parce que c'est extrêmement difficile, c'est assez hasardeux, ça consomme des hommes, ça consomme de l'argent, ça consomme de beaucoup de choses, ça affaiblit l'appareil militaire, ça fait perdre sa crédibilité au général romain. Donc le général romain, lui, il exprime qu'il n'y a pas plus de grande victoire qu'une victoire acquise sans combattre.
Alors, économie des moyens, concentration des forces, ça rappelle un peu les grands principes du maréchal Foch.
Ah ben ça, c'est les principes du maréchal Foch. Mais alors, c'est justement ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai lu ces textes-là, ils appliquent de manière empirique. Je ne connaissais pas Foch, mais peut-être que Foch, lui, avait lu les anciens. C'est plutôt dans ce sens-là. Et puis après, il y a l'expérience empirique de la guerre au cours des siècles. Nous, on a accumulé les strates d'expérience dans nos académies modernes de ce qui s'est passé au cours des siècles. Et donc, le premier des principes, c'est effectivement la concentration des efforts. La concentration des efforts, c'est, eh bien, on se disperse pour progresser, par exemple, à l'époque antique, parce qu'on ne peut pas nourrir 60 000 hommes sur un même axe de progression. Donc les légions progressent dispersées, bien entendu, mais elles combattent, elles se regroupent pour combattre. Donc, et puis quand on veut battre l'ennemi, eh bien, il faut établir une supériorité numérique, et donc une supériorité numérique, selon les normes modernes, c'est entre 3 et 5 contre 1, et ça, ça n'a pas beaucoup évolué depuis l'Antiquité. Quand on connaît les effectifs de bataille et qu'on applique le ratio, notamment pour les prises de ville, on s'aperçoit que les Romains essayaient d'appliquer, j'allais dire, ce ratio de manière empirique, c'est-à-dire une très grande supériorité numérique avant de commencer à attaquer. Après, l'économie des moyens, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire ne pas gâcher son appareil militaire, utiliser le strict nécessaire pour atteindre ses objectifs au moindre coût. Et tout ça, ça donne la liberté d'action. Et la liberté d'action, c'est quand c'est la capacité de faire face à l'inconnu, c'est la capacité de garder des réserves, c'est la capacité de varianter ses efforts, parce qu'à la guerre, rien ne se passe jamais comme on le pense, comme on l'espère. Je veux dire, le maréchal von Moltke, qui nous a battus pendant la guerre de 1870-71, général prussien, qui est futur maréchal, disait « la première victime à la guerre, c'est le plan ». C'est un peu vrai. L'art militaire, c'est pas l'art divinatoire. L'art militaire, c'est l'art d'être capable de voir toutes les éventualités et se dire « s'il se passe ça, voilà ce que je vais faire ». C'est-à-dire de brosser toutes les éventualités et de garder les troupes et de garder un système militaire qui ne m'engage pas dans une direction unique, mais qui me permet de changer, de tactique ou de stratégie, si jamais, eh bien, ça ne se passe pas comme je le veux.
Alors, vous évoquez le plan, et puis vous me parlez de nombreux auteurs. On a beaucoup d'élèves officiers de Saint-Cyr qui nous écoutent, ou de lieutenants qui débutent leur carrière militaire, avec votre expérience en tant que militaire et officier, et puis votre connaissance des auteurs. Qu'est-ce que la lecture de ces auteurs apporte à un militaire en plus de ce qu'on apprend dans une académie, de ce qu'on apprend sur un théâtre d'opération ? En quoi c'est important de les lire ?
Ah ben moi, je crois que tout s'apprend par l'histoire. Dans l'histoire, tous les cas de figure que l'on peut connaître aujourd'hui ont déjà été étudiés. Donc on dit l'histoire ne se répète pas. Si, l'histoire se répète. Et donc, lorsque l'on dit les anciens, on ajoute à la profondeur de sa réflexion stratégique. Moi, j'ai été, par exemple, cadre à l'école de guerre. J'étais professeur à l'école de guerre. J'ai toujours milité, j'allais dire, pour les exemples historiques. Et d'ailleurs, c'est assez bien fait. Quand on est à l'école de guerre, on commence par étudier le D-Day, le jour du débarquement. C'était l'exemple le plus complexe d'opérations militaires, interarmées, avec des bateaux, des avions, etc., réussis. Et donc, on commence avec ça. Et ça, c'est absolument essentiel, parce que les schémas, vous voyez, c'est liberté d'action, concentration des efforts, etc., et économie des moyens, on le retrouve dans les écrits antiques. Et en fait, quand on lit Jules César et qu'on lit Flavius Joseph, on y apprend beaucoup de choses sur le combat moderne, parce qu'en fait, les fondamentaux du combat sont pérennes. Ils ne changent pas. Il y a des principes, bien sûr, il y a des principes qui sont tout à fait identiques. Bien entendu, l'armement a changé, la puissance a changé, mais les principes de l'action n'ont pas changé. De même que la tactique, c'est-à-dire acquérir une supériorité numérique, fixer, déborder ou essayer d'envelopper l'ennemi, ce sont des principes tout à fait modernes. C'est comme ça que je décris dans mon ouvrage que la bataille de Cannes, à une autre échelle, bien entendu, ressemble furieusement à la bataille de Stalingrad, dans sa capacité d'encerclement. Hannibal, l'armée romaine, et puis les Russes, la 6e armée du général Paulus.
Alors justement, c'est une transition parce que je voulais parler de la bataille de Cannes. Oui. Les Romains ont connu de belles victoires, des défaites aussi terribles. Alors là, il y a Cannes, mais avant, il y a eu le lac Trasimène. Ce qui est surprenant, c'est cette capacité, après une lourde défaite, à se remettre en selle et à infliger finalement la défaite finale aux Carthaginois.
Alors, ils sont vraiment tout à fait tenaces, les Romains. Alors, à cette époque-là, l'armée romaine, au moment du lac Trasimène, la Trébie, etc., où il y a le Tessin, ils ont eu trois grosses défaites avant la bataille de Cannes, l'année d'avant, etc. C'est-à-dire que quand Hannibal descend des Alpes, ils subissent trois défaites tout à fait considérables, mais qui sont dues aussi à une espèce encore, j'allais dire, d'amateurisme. À l'époque, il y a des consuls, ils sont élus pour un an, quelquefois ils commandent à deux. peu, et, ça, et c'est le cas à Cannes, quasiment. À Cannes, il y a un consul qui commande un jour sur deux. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique comment un jour sur deux on peut commander. Et en fait, celui qui a pris les dispositions la veille, Paul-Émile, il n'est pas celui qui commande le lendemain Varong, et puis qui lui est un idiot, c'est un politique, et qui veut absolument gagner la bataille, veut l'avoir pour lui, donc il engage le combat dans des conditions qui ne sont pas optimales. Vous voyez, donc le commandement était encore un tout petit peu... j'allais dire sommaire, qui n'était pas fait avec que des professionnels, hein, et c'est ce qui va faire la différence. Sous Auguste, on a quand même des grands généraux qui consacrent leur vie à l'art militaire, hein, Corbulon au 1er siècle, etc. Il y a quand même du très lourd. À cette époque-là, il y a encore un certain amateurisme du commandement. Ensuite, le combat interarmes, tel que je le décris tout à l'heure, est encore tout à fait sommaire. Hein. Il y a la Légion romaine. Bon, voilà que Trasimène, c'est une embuscade. C'est un peu comme les fourches caudines qui ont eu avant contre les Samnites là, que, dans les années au 4e siècle. Bon, le lac Trasimène, c'est la Légion progresse, il n'y a pas de reconnaissance. Or, on sait très bien que quand une Légion avec des millions d'hommes progresse, il faut des cavaliers en tête pour voir si l'ennemi est quelque part, etc. Pas de reconnaissance, ils y vont, pof, ils se font piéger. Vous voyez, donc il y a un certain amateurisme comme ça qui font que l'armée romaine ne tient pas le choc sur Hannibal, qui est un très très bon tacticien. Mais en même temps, je dirais, les Romains, c'est des gens qui apprennent très vite, c'est-à-dire qu'ils ne font pas deux fois les mêmes erreurs. Hein, donc ils apprennent de leurs ennemis, ils n'hésitent pas d'ailleurs à employer les armes de leurs ennemis, hein, le casque est gaulois, l'épée aussi, etc. Vous voyez, peut-être même la côte de maille, le piloum était samnite, et donc tout ce qu'ils trouvent de bon, ça c'est du vrai retour d'expérience, tout ce qu'ils trouvent de bon chez l'ennemi, ils le récupèrent et ils l'utilisent pour eux. Et ça c'est une très très grosse différence avec les armées antiques, parce que l'armée antique, le modèle, c'était, si vous voulez, la reproduction du schéma ancestral. C'est-à-dire, nos ancêtres faisaient ça, donc comme ils ont réussi, on va faire ça. Et les Romains, eux, ils regardent ce que font leurs ennemis, leurs adversaires, et qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, eh bien, ils font un retour d'expérience qui leur font adopter les meilleures pratiques. Et ce qui fait qu'à partir de Cannes, eh bien, la bataille de Zama en 202, Scipion l'Africain, c'est Cannes à l'envers. C'est lui qui encercle l'armée d'Hannibal et qui la détruit exactement de la même manière à l'envers. Donc, vous voyez, on ne met pas... Alors, l'homme était valeureux, c'était un grand général, mais ils ne mettent pas longtemps. Ensuite, c'est une armée qui ne manœuvrait pas, hein, qui était encore le schéma politique, un peu, où on pousse vers l'avant, ce qui se passe à Cannes. À Cannes, il n'y a pas de manœuvre. Il y a 16 légions, ils poussent devant. Ils poussent tellement... et Hannibal oppose au cœur de la légion qui pousse ses troupes les plus faibles. Donc, ils reculent. Simplement, les troupes les plus fortes étaient aux ailes. Et donc, quand elles s'enfoncent dans le dispositif carthaginois, les ailes se referment et l'armée est broyée. Voilà, donc c'est ça. Eh bien, Azama, Paul-Émile fait exactement la même chose, mais avec une armée qui manœuvre. C'est-à-dire qu'il reprend, lui, il n'y a plus l'armée qui pousse d'un bloc, il y a des manipules qui sont capables de s'espacer, d'avoir un fonctionnement autonome, et ce sont ces manipules qui, au fur et à mesure de la bataille, neutralisent les aires carthaginoises et ensuite anéantissent l'armée d'Hannibal.
Quelle est la bataille qui vous paraît la plus symptomatique de ce qu'est l'armée romaine, des grandes victoires que vous trouvez vraiment un peu caractéristiques de la manière dont les Romains ont conduit leur armée ?
Alors là, je dirais, il y a forcément, en matière de siège, c'est le siège de Jérusalem, hein, qui est l'exemple type, on ne connaît pas, d'abord, il est tellement bien documenté, alors il y en a peut-être eu d'autres de sièges aussi importants, etc., mais on ne sait pas, on sait qu'il y a eu le siège de Byzance par Septime Sévère pendant la guerre civile, mais on n'a que des bribes, c'est à la fin du deuxième siècle, mais un siège aussi bien documenté, on n'en a pas d'autres. Donc ça, sur le plan du siège, je pense que Jérusalem est vraiment l'archétype absolu des savoir-faire de l'armée romaine au 1er siècle, c'est-à-dire de l'infanterie, des compétences du génie, parce qu'ils construisent les ouvrages, ils construisent un mur, un peu comme à Alésia, etc., ou bien à Massada, donc compétences du génie, de l'artillerie qui tire, des archers, des capacités de mener le combat interarmes coordonné, c'est-à-dire on tire, il y a un arrêt de tir, il y a un report de tir, les troupes montent à l'assaut, etc., etc., et donc ça, c'est éminemment moderne. sur le plan du champ de bataille, moi, il y a une bataille, d'ailleurs, que je décris un peu dans mon ouvrage, que j'aime beaucoup, c'est la bataille de Jules César contre les Helvètes en 58 avant Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas la seule, hein, parce qu'il y a d'autres batailles qu'on pourrait, mais c'est une des batailles qui est très bien décrite et qui m'impressionne. Pourquoi ? Parce que contre les Helvètes en 58, Jules César donc met ses légions en ligne et monte à l'assaut des Helvètes. Et les Helvètes, à ce moment-là, ont un corps qui vient percuter son flanc droit. Et Jules César fait basculer toute sa troisième ligne. Mais la troisième ligne, elle est composée de toutes les légions qui sont présentes. Donc, elle n'est pas sous commandement unique. La troisième ligne, elle est la troisième ligne de la première légion, de la deuxième légion, de la troisième légion, etc. Et il réussit à faire basculer toute sa troisième ligne pour colmater la brèche sur son flanc droit. C'est l'exemple, véritablement, c'est d'une complexité absolue. On ne sait pas par qui c'était commandé, mais il l'a fait basculer. Je pense qu'il avait anticipé son coup avant le combat. Mais il arrive à articuler son armée pour parer à toute éventualité. Et donc là, c'est le chef militaire qui est capable de garder sa liberté d'action. Il est en difficulté. Il a, d'un seul coup, il prend une attaque de flanc et spontanément, son armée bascule sur son flanc droit et colmate la brèche et les repousse. Et ça, sur le plan militaire, c'est d'une complexité absolue. Et c'est la preuve, et c'est l'exemple, l'archétype même des savoir-faire de l'armée romaine à la fin de l'époque républicaine et au début de l'époque impériale. Parce que l'armée de Jules César est absolument pas différente, finalement, de l'armée d'Auguste et de l'armée du 1er et 2e siècle sous le Haut Empire.
Et justement, quelles sont les grandes évolutions majeures qu'on voit dans l'armée romaine entre l'époque d'Auguste et l'Antiquité tardive ?
Ah ben, alors là, oui, il y a vraiment beaucoup de différences. C'est-à-dire, en fait, on considère que le Haut Empire, il s'arrête à 231. C'est l'assassinat de Sévère Alexandre en Germanie. Donc avant, il y a eu des grands empereurs, il y a eu Marc Aurèle, Septime Sévère. Ça se termine par Sévère Alexandre, c'est un Sévère. Et il se fait assassiner. Et à ce moment-là, le 3e siècle, c'était un siècle d'anarchie militaire. Donc il y a énormément de guerres civiles. Et donc l'Empire romain s'affaiblit de lui-même par ce phénomène de guerre civile, bien entendu. Et puis en même temps, et là c'est pas de bol, c'est le début des grandes invasions. Et les grandes invasions, elles ont commencé dans les années 160-170 par Marc Aurèle. C'est là qu'on voit le fameux gladiator. Je veux dire, ça se passe du côté de Vienne, sur le Limès, dans ce qui est actuellement l'Autriche. Et donc, il commence à y avoir des premières invasions tout à fait considérables. Et donc, en dehors des guerres civiles, il y a quand même quelques bons empereurs. On est obligé de réorganiser l'appareil militaire, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un appareil militaire qui est de plus en plus mobile, est capable de se porter d'un point à l'autre de l'Empire très rapidement. Donc forcément, c'est un appareil militaire qui devient monté. Donc à partir du 3e siècle, on voit de plus en plus l'apparition de la cavalerie. Et la cavalerie, qu'est-ce qu'elle est ? C'est une cavalerie barbare, elle est alliée. Donc un poids de plus en plus important, je dirais, des savoir-faire des troupes auxiliaires dans l'armée romaine. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a un affaiblissement, j'allais dire, global de l'armée romaine, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, guerre civile. Il y a la peste aussi, il y a eu la peste qui a affaibli considérablement les légions. C'est Marc Aurèle qui l'aurait ramené d'Orient, ça a sévi, ça a affaibli considérablement l'Empire romain. Et on s'aperçoit que des ressources rares ne peuvent plus être affectées aux légions. C'est un peu ce qui arrive aussi dans nos armées, malheureusement, aujourd'hui. Et donc, elles sont regroupées. Et ça, c'est notamment le phénomène de l'artillerie. Et donc, à partir du 3-4e siècle, l'artillerie est regroupée dans des régiments spécifiques, alors même qu'à Jérusalem, chaque légion avait ses 59 pièces. Il y avait 4 légions, 4 fois 59. D'accord, il y avait 240 pièces devant Jérusalem. Au IVe siècle, Ammien Marcellin, qui part avec Julien l'Aposta se battre sur les frontières de l'Euphrate, là dans les années 360, etc., où Julien l'Aposta meurt d'ailleurs lors d'une bataille, décrit, parce que lui, il a combattu aux côtés de l'empereur, il fait toute la relation de l'histoire de cette époque-là, des années milieu du IVe siècle, décrit des légions de Gaulois, vous voyez, des légions de Gaulois, et qui montent à l'assaut de ville et qui n'ont aucun savoir-faire de polyurcétique et qui n'ont pas d'artillerie et donc finalement se font décimer. Donc vous voyez un petit peu, j'allais dire, cette espèce d'abâtardissement, j'allais dire, de la Légion petit à petit. Et ça, c'est dû à tous ces phénomènes-là. Guerre civile, vraisemblablement la peste à un moment donné, parce que la peste noire, on sait qu'au XIVe siècle, en France, elle a énormément affaibli aussi les armées et a changé la société. Et puis ensuite, effectivement, toutes ces grandes invasions qui forcent à faire évoluer l'armement, et donc c'est à ce moment-là aussi que l'armement évolue, beaucoup plus de gens à cheval, des armements plus légers, et finalement on abandonne petit à petit l'équipement standardisé d'Astérix, j'allais dire, hein, qui est celui en fait des armées d'Auguste. Voilà.
Merci beaucoup, général Nicolas Richoud, de avoir présenté cette armée romaine. Je renvoie au titre de votre ouvrage, L'armée romaine, première armée moderne, qui est paru aux éditions Pierre de Taillac. Également un article que vous avez publié sur le site de Conflit qui fait un parallèle entre Flavius Joseph et l'actuelle guerre en Ukraine. Parallèle et comparaison extrêmement intéressante, justement, pour approfondir les points que vous nous avez présentés au cours de cette émission. Merci pour votre fidélité. Puis je vous rappelle bien évidemment que Conflit ne vit que par ses lecteurs, que par ses abonnés. Vous êtes nombreux à écouter ces émissions. Je vous en remercie. Et en vous abonnant, eh bien, vous nous permettez de continuer à vous offrir ces contenus gratuits et puis également à continuer à permettre le développement de Conflit. Vous pouvez vous abonner sur notre site internet revueconflit.com où vous pouvez aussi retrouver nos anciens numéros en papier et en numérique. Merci, à très bientôt.